Voix du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, à quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat, la pression monte. 146 pays ont rendu leur copie pour dire ce qu'ils sont prêts à faire pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Un nouveau texte est apparu cette semaine, nous vous en parlions hier avec Pierre Radan. 20 pages, 25 articles, qui sera sans doute, et malgré les critiques qu'il soulève déjà, la base de l'accord de Paris. Puis il y a la mobilisation citoyenne. Dans tous les pays du monde, les ONG se regroupent pour dire à leurs dirigeants qu'il est temps d'agir avec ambition. Et cette semaine, Nicolas Hulot, infatigable défenseur de l'environnement et envoyé spécial de François Hollande pour la planète, a créé le buzz avec ça.
Bon, Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. C'est pas pour faire un lip-dub.
En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez ? Un truc badass, quoi.
Badass.
Ouais, badass. C'est méchant cul.
Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme seul décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas Hulot.
Bon, peut-être tout simplement, je sais pas, délivrer un message sobre et efficace à l'américaine, non ?
Bonjour, bienvenue dans un message sobre et efficace à l'américaine. Pour l'occasion d'ailleurs, j'ai mis une moustache et un béret à la française. Voilà, ça fait 20 ans qu'on entend.
Il est temps de prendre soin de notre planète et de l'environnement.
Alors vous vous demandez sûrement, d'accord, mais quoi faire ?
Il faut que je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents.
Que je trie bien mes déchets ?
Que je mange bio ?
Ouais, c'est vrai, faut faire tout ça, mais c'est pas de ça qu'on vous parle aujourd'hui.
Il y a un rendez-vous historique en décembre à Paris, la COP21.
Ce nom, il est vraiment nul, mais bon.
Tous les chefs d'État du monde vont se réunir pour prendre des décisions sur le climat.
C'est une occasion en or pour leur rappeler
qui les a élus et pourquoi ils sont à ce poste.
De quoi ont-ils le plus peur ?
De ne pas se faire réélire.
Comment faire pression ?
En signant la pétition.
On signe.
Plus nous serons nombreux,
plus nos chefs d'État seront obligés de faire bouger les choses.
Alors évidemment, certains diront ce n'est pas mon combat ou...
Moi je signe jamais les pétitions.
Franchement, c'est un principe de merde si t'as ça dans ta vie. Moi je signe jamais les pétitions.
Ou alors je ne sais pas trop quoi penser de ce Nicolas Hulot.
Là n'est pas la question.
L'enjeu est d'une importance capitale.
Et bien au-dessus des opinions politiques.
Des affinités pour telle ou telle personne ou des opinions personnelles.
L'enjeu est d'enfin s'unir pour dire d'une seule voix.
C'est votre dernière chance de nous prouver qu'on ne vous a pas élus pour rien.
Ce n'est plus l'avenir qui se décide, c'est le présent.
Nous pouvons reprendre notre destin en main.
N'ayons pas peur. Osons.
Faites entendre votre voix.
Chaque signature compte.
Chaque voix compte.
Alors ce clip diffusé sur YouTube mercredi a déjà été vu par des millions de gens et ça tombe bien puisque l'objectif c'est qu'un maximum de monde signe la pétition que vous avez lancée en parallèle. Osons pour que les chefs d'État soient à la hauteur du défi de la conférence de Paris. Le premier jour, les serveurs ont été saturés. Alors j'imagine que c'est réparé. Combien de signatures aujourd'hui ?
Écoutez, on doit être pas loin des 200 000. Ça ne cesse de monter. Effectivement, on a été complètement surpris par le succès de la vidéo. Donc du coup, s'il y avait eu autant de signatures que de visions de la vidéo, on en serait beaucoup plus loin. On va voir, mais ça montre qu'il y a quand même une disponibilité, il y a une attente. Mais je pense que ce qui a été un peu le signal, c'est le mot « osons ». C'est-à-dire que les gens en ont un peu marre des paroles, des intentions, des bons sentiments, qu'ils soient d'ailleurs sincères ou pas. Ils voient bien que les choses ne changent pas, ont plutôt tendance à empirer, et donc qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et qu'il faut aller dans l'action. Et là, on leur donne une possibilité de se sentir un tout petit peu utile et d'interpeller les chefs d'État pour leur dire à Paris, ne parlez plus, enfin, pardon de le dire, je veux pas être méchant, mais agissez, quoi. Agissez, et on vous dit, faites-le, et si vous changez le monde, on accompagnera ce changement. Bon, voilà, mais c'est important parce que vous savez, les politiques sont parfois face à des choses très contradictoires et l'action politique n'est pas forcément évidente. Mais si on veut qu'ils soient courageux à Paris, il faut qu'ils sentent que derrière eux, il y a les peuples et les citoyens, au-delà de leurs différences. Alors, on n'est pas les seuls à lancer un appel, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Cet appel agrège et quelque part fait converger un certain nombre d'initiatives pour qu'on soit vraiment des millions à leur dire vraiment là, écrivez l'histoire à Paris. Parce que nous allons payer comptant. Si jamais nous ne sommes pas courageux, et si vous n'êtes pas courageux, nos reniements, nos renoncements et nos lâchetés collectives. Parce que vous savez, l'histoire n'est jamais amnésique. Et l'histoire de demain, et comme quelqu'un l'a dit dans le clip, demain est presque déjà aujourd'hui, elle est en train de se déterminer là.
Vous étiez à Copenhague.
Oui.
Est-ce que vous vous rappelez, quand on arrivait à l'aéroport de Copenhague, quelles étaient les affiches qu'il y avait dans l'aéroport ?
Non.
Il y avait des affiches de tous les présidents des pays les plus polluants de la planète qui étaient vieillis. Il y avait notamment à l'époque une affiche de Nicolas Sarkozy. Et il y avait écrit dessus « et dire que nous n'avons rien fait ». Et donc... Je veux dire, déjà en 2009, il y avait eu ce mouvement, il y avait eu ces initiatives, ça n'a pas marché, on le sait. Le contexte est complètement différent aujourd'hui.
Oui, non, mais rien n'est garanti.
Mais le jugement de l'histoire, je ne suis pas sûre, malheureusement, que ça soit quelque chose
l'histoire jugera,
qui motive.
Et je peux vous dire qu'effectivement, l'histoire jugera et ne sera pas amnésique. Bon, ça n'enlèvera pas le chagrin, la tristesse et la souffrance de ceux qui seront victimes d'un éventuel manque d'ambition à Paris. Mais bon, encore une fois, le contexte n'est pas le même. Et je suis pas en train de dire que tout va bien ou tout va aller bien. Mais moi, jusqu'au bout, je suis pas là pour distribuer des satisfecits. Parce que moi, quand je m'implique, je pense d'abord à ceux qui sont déjà en souffrance à cause des changements climatiques. Et j'ose malheureusement déjà imaginer ce qui va se passer, y compris d'ailleurs pour mes propres enfants. Donc je peux pas simplement me satisfaire d'eau tiède et de petites déclarations mielleuses. Quand bien même sont-elles sincères ? Mais le contexte a changé. D'abord, la mobilisation n'a jamais été aussi forte. J'ose croire que cette mobilisation maintenant est sortie du cercle des seuls initiés et convaincus. Voilà. J'ose croire que malheureusement la réalité climatique a fini de convaincre les derniers sceptiques. Bon, en même temps, l'innovation est là, donc sur un plan technologique, sur un plan économique. Si, quand bien même, voulait-il pour une fois regarder ailleurs, c'est-à-dire regarder qu'on peut faire différemment et agréger ces outils, parce que il n'y a pas un défaut d'intelligence, y compris dans l'économie, qui n'est pas une loi physique figée. C'est une produit de la société, on peut la faire bouger. Mais il faut ouvrir l'esprit, c'est accepter de faire autrement et ne pas répéter en permanence les erreurs du passé ou des modèles de développement qui ont été un temps la solution mais qui aujourd'hui malheureusement sont le problème.
Alors le climat est un enjeu mondial, hein, vous le rappeliez. Alors voyons si votre démarche a déjà franchi les frontières ne serait-ce que de la France. Hein. Bonjour Aissatou Diouf.
Bonjour.
Vous êtes en charge du plaidoyer climat pour l'ONG ENDA au Sénégal. ENDA qui fait partie du réseau climat et développement hein, qui regroupe 75 ONG francophones majoritairement en Afrique. Est-ce que la démarche de Nicolas Hulot est arrivée jusqu'à Dakar ?
L'appel de Nicolas Hulot est arrivé à Dakar, il a été bien entendu et rejoint également l'appel quotidien que lancent ces communautés qui se mobilisent depuis des années parce que pour eux, le changement climatique, c'est pas demain, c'est maintenant, ils le vivent au quotidien. Donc cette mobilisation citoyenne de ces communautés qui n'ont pas toujours été entendues et qui ne le sont toujours pas, donc cet appel vient conforter la position et la demande et la mobilisation citoyenne de ces personnes impactées par le changement climatique et qui nous demande qu'à être entendu.
Oui, parce que vous-même, avec ENDA et avec le réseau climat et développement, vous êtes très mobilisé, mais c'est difficile. Hein. Le Sénégal, par exemple, espère devenir producteur de pétrole dans les années qui viennent, et il y a des prospections qui sont en cours, et pour l'instant, le président Macky Sall mise plus sur le charbon que sur les énergies renouvelables.
C'est là où se trouve tout le problème. On se demande quel sera l'impact de cette mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de mon pays, le Sénégal, qui compte mettre en place plus de 10 centrales à charbon, et que le président de la République nous dit oui, entre la logique du développement et la logique du climat, le choix est déjà fait, ou bien le choix peut être vite fait, et qu'il appartient aujourd'hui aux pays développés de nous appuyer financièrement pour enclencher une transition énergétique. Si tel n'est pas le cas à Paris, pour des pays comme le Sénégal et comme la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays africains, le choix du développement va l'emporter sur le choix du climat au détriment de ces communautés et au détriment également de la lutte contre les changements climatiques.
Merci Aissatou Diouf pour votre réaction. Nicolas Hulot, vous entendez bien ce que dit Aissatou Diouf, hein. C'est difficile localement et il faut des financements.
Oui, il faut de la vérité. Il faut promettre de l'argent d'abord que les États ont, et s'ils ne l'ont pas, il faut aller le chercher là où il est. Le choix entre le développement et le climat, il peut sembler un choix possible, mais en réalité, personne n'aura le choix de choisir l'un ou l'autre. Ça sera l'un et l'autre, ou alors nous perdrons sur tous les fronts. Mais effectivement, je peux comprendre que vu d'Inde ou vu du Sénégal, il y a des priorités, l'accès à l'énergie pour le plus grand nombre. Et si, évidemment, le charbon semble économiquement plus accessible et qu'il n'y a pas des dispositions et des dispositifs pour aider ces pays-là à accéder à des technologies propres, à des coûts raisonnables ou avec des processus de financement qui soient accessibles, je puisse comprendre, évidemment, qu'ils fassent des choix qui n'aillent pas forcément dans le bon sens. La responsabilité de cela, elle incombe prioritairement aux pays qui ont une responsabilité historique dans cette situation, dans la situation climatique, et qui ont les marges de manœuvre financières pour permettre de développer à une échelle macro les énergies renouvelables, notamment pour ne parler que de cette technologie. Parce que si nous faisons en sorte de basculer tous les investissements qui sont pour l'instant placés dans ce qu'on appelle l'économie carbone, et que surtout si les États cessent de subventionner les énergies fossiles, si dans le même temps on donne un prix au carbone, qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sont pas des dizaines de milliards de dollars qui vont basculer vers l'économie bas carbone, ce sont des milliers de milliards de dollars dans le monde, mais il faut que les États montrent la voie. À partir du moment où on va changer d'échelle dans les investissements, notamment l'énergie bas carbone, les coûts vont tomber. Ils vont vraiment tomber. Et à partir du moment où les coûts vont tomber, probablement que ces technologies vont commencer à devenir accessibles au pays. Et s'ils ne sont pas totalement accessibles, alors à ce moment-là, on pourra éventuellement faire des prêts à très long terme et à taux zéro. Parce que ce ne sera pas des dépenses, ce sera des investissements. Parce que dès lors qu'on va donner la possibilité à ces pays de produire leur énergie dans leurs frontières à partir d'une source d'énergie qui, à terme, est bon marché parce que le vent, le soleil, la biomasse est gratuite. Simplement, c'est d'ailleurs la raison non manifeste, il faut y aller en grand. Pourquoi est-ce que les technologies propres coûtent plus cher aujourd'hui que le charbon? Parce que d'abord, elles n'ont pas bénéficié de la même échelle, elles n'ont pas bénéficié des mêmes subventions, et qu'on y va, encore une fois, d'une manière excessivement timide. Mais il faut comprendre que les énergies fossiles, ça n'est pas l'ennemi du climat, c'est l'ennemi du climat, ça n'est plus l'ami de l'humanité, c'est l'ennemi de l'humanité.
Alors, selon un rapport de l'OCDE publié cette semaine, sur les 100 milliards de dollars promis d'ici 2020 pour aider les plus pauvres à limiter leurs propres émissions et donc à s'adapter aux conséquences des changements climatiques, il y a seulement 61 milliards, près de 62 milliards de dollars qui ont été mis sur la table, et il ne reste même pas deux mois avant Paris.
Oui, mais c'est justement ce qui me met un peu en colère. D'abord, très sincèrement, je pense que ces 100 milliards, ça sera le minimum, et il en faudra probablement plus. Bon, on peine, on voit bien, à trouver ces 100 milliards, on va les trouver. Encore faudra-t-il que l'on précise à nos amis africains la part de dons et la part de prêts, la part d'argent public et la part d'argent privé. Mais quand je vois que la difficulté qu'on a, et que dans le même temps, on alloue chaque année 650 milliards de dollars en subventions, en exonérations aux énergies fossiles, pour créer un problème qui coûte, selon l'OCDE, que vous venez de citer, quasiment 4 000 milliards de dollars en conséquence sur la santé, et selon le FMI, 6 000 milliards de dollars si on ajoute la santé et l'environnement. Donc on se dit quand même qu'on est dans une forme de schizophrénie, et que au passage, si nous mettions à contribution le monde de la finance, pas celui qui finance une économie au service de l'homme, celui qui spécule et qui représente honnêtement des flux financiers monstrueux qui échappent à la solidarité, qu'on les mettait à contribution avec une taxation $1 pour eux. Mais là, c'est pas 100 milliards qu'on trouverait, c'est beaucoup plus. Donc, on va me dire, vous êtes très utopique. Mais l'utopie, elle est où? Elle est de penser que tout ça va pouvoir perdurer avec le temps, et qu'à un moment ou à un autre, les hommes qui sont, sacrifiés sur l'autel de la cupidité vont rester les bras croisés? La réponse est non. Donc, l'utopie, c'est justement de penser que ça va pouvoir continuer. Il faut voir les choses en grand, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et très sincèrement, quand je vois cette difficulté, c'est parce qu'on ne sort pas des codes financiers et des codes économiques. Vous savez, Hugo Chavez disait cette phrase, « Si nous étions des banques, on nous aurait déjà sauvés. » Quand les banques sont menacées, croyez-moi que c'est pas 100 milliards qu'on trouve. Quand le FMI a émis en 2008 des droits à tirage spéciaux, je vous invite à aller chercher les sommes qui ont été trouvées à ce moment-là. Je ne sais pas où elles sont passées depuis, mais là, on n'a pas hésité même à faire ce qu'on appelle de la création monétaire. Ce qu'on s'interdit de faire pour les hommes, on s'autorise à les faire pour les banques. Alors, on va dire, c'est très démagogique ce que vous dites, mais c'est la réalité.
Oui, alors après, c'est vrai, ne soyons pas utopiques, il faut quand même regarder la réalité au quotidien. Lors de son discours le 27 septembre dernier à l'Assemblée Générale de l'ONU, François Hollande a promis d'augmenter de 4 milliards d'euros l'aide publique au développement par an à partir de 2020. Il a également annoncé une hausse des financements de la France sur le climat de 2 milliards d'euros que tout le monde a salué. 2 milliards d'euros supplémentaires par an, donc, mais là aussi, à partir de 2020. Alors, on se dit cocorico, formidable. Et puis, cette semaine, douche froide, pour la cinquième année consécutive, l'aide française au développement va baisser moins 170 millions d'euros. Alors, au début de votre livre, vous écrivez « Seul le mensonge m'effraie ».
Il faut être dans... Ça vaut pour la France et ça vaut pour l'ensemble des pays, mais il y a un mot-clé pour la réussite de la conférence de Paris, la vérité.
Oui, mais enfin, vous savez bien que discours politique et vérité, ça ne fait pas bon ménage.
Bon, et ben c'est pas une raison pour s'en accommoder. D'autant que là se joue, vous savez, quand quelqu'un m'a dit un jour à Rabat au Maroc, Monsieur Hulot, n'oubliez pas qu'à Paris, vous allez décider de qui va mourir ou pas. Il y a un moment, excusez-moi, mais justement, on peut pas s'accommoder. Alors, je veux pas faire de procès d'intention à tout le monde. D'autant qu'il faudra regarder, je pense que pour ce qui concerne la France, un certain nombre de précisions vont être données, et notamment l'association entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts va probablement, je suis pas assez expert pour vous en faire la démonstration, permettre d'honorer ces promesses. Mais de toute façon, l'argent, on va probablement le trouver, mais il faut préciser la part, notamment de dons. Parce que, et ça vaut pour la France, pour toutes les
banques...
Là,
selon l'OCDE, sur 60 milliards de dollars promis, il n'y a que 2 milliards de dons.
Donc, pour moi, ça n'est pas suffisant, parce que les pays qui ont le plus besoin d'argent n'auront pas la capacité à rembourser les prêts. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que moi, mon rôle, il est de pousser dans leur retranchement, et que on voit justement les défauts, et il est encore temps de corriger, de rééquilibrer à Paris, parce que sinon, la mauvaise humeur de certains pourrait être légitime. Et moi, je ne le souhaite pas. Je pense que la première chose auquel on doit répondre, c'est répondre aux doléances légitimes que votre auditrice venait d'exprimer. Parce que ces hommes, ces femmes et ces pays subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué et qui est lui-même la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas, en général, profité. Donc, il y a un moment énorme, c'est une question de justice, simplement, et que si nous ne rétablissons pas cette justice dans les faits et pas dans les mots, il ne faudra pas s'étonner que ce monde devienne de plus en plus tendu.
Alors, en 2005, vous aviez lancé un défi pour la Terre, 500 000 signatures en un an. En 2007, le pacte écologique, 50 000 signatures en plus de 6 mois. Là, bon, on voit bien que...
Non, c'était beaucoup plus.
Beaucoup plus.
Le pacte écologique, on a frôlé le million de signatures.
D'accord. Donc là, ça sera sans doute plus encore. En même temps, vous avez une fidélité dans vos engagements qui est remarquable. Aujourd'hui, vous êtes envoyé spécial pour la planète pour François Hollande. Vous avez accompagné Nicolas Sarkozy. Vous avez accompagné Jacques Chirac. Ce n'est pas une critique. Enfin, je veux dire, vous avez donc une conviction qui est qu'on peut agir de l'intérieur sur le politique. Or, aujourd'hui, on sent que vous êtes toujours dans ce discours, j'ai envie de dire, c'est un peu simpliste peut-être, mais il n'y a qu'à Faucon. Comment
c'est pas y a qu'à Faucon,
vous êtes
que...
à l'intérieur et c'est difficile de faire bouger les choses.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a face en nous un système, des résistances, des lobbies. Je me désespère tous les jours que ça soit aussi compliqué de dire aux hommes de se sauver d'eux-mêmes. Il y a la partie probablement invisible de ce qu'on a obtenu dans beaucoup de domaines. Je pense que mon engagement fait que pour ce qui concerne la France, quand nous avons eu le Grenelle qui, mine de rien, dont les conséquences sont loin d'être insignifiantes, je pense que la loi sur la transition énergétique, j'y suis pas totalement étranger, j'obtiens beaucoup de choses. Mais c'est, pardon de l'expression, peanuts par rapport à ce qui reste à faire. Le problème, c'est que c'est bien beau de critiquer ou d'encourager mon pays, mais c'est un sujet universel et la responsabilité, elle est universelle. Et donc, si par hasard mon pays allait encore plus loin, ça servirait pas à grand chose si, notamment en Europe, on n'était pas au diapason. Le problème aussi, c'est que c'est bien beau de se tourner vers ceux qui n'ont pas assez obtenu comme moi, mais ce serait mieux de se tourner vers ceux qui font rien, qui ne proposent rien et qui, au passage, ont encouragé et continué d'encourager un modèle et un système. Parce que l'équation entre comment développer une économie sans épuiser la nature et sans détruire le climat, elle n'est pas simple. Et on voudrait que nous, on soit les lanceurs d'alerte, nous soyons les prescripteurs. Voilà. Et au passage, nous le sommes quand même un tout petit peu, parce que je me contente pas de faire du yaka. D'ailleurs, preuve en est, c'est que dans le plaidoyer que je sors, comme je l'avais fait au moment du pacte écologique, nous avons recensé des propositions. Il y en a 10 qui sont indispensables et qui sont partagées par la communauté, notamment des économistes, qui se sont penchés sur ces réalités-là. Donc nous-mêmes, on est force de proposition, on n'est pas juste dans le constat.
Alors justement, ces propositions, on va les détailler juste après le flash d'info. Vous restez avec nous, Nicolas Hulot, à tout de suite.